Bonjour, bienvenue dans votre émission Histoire et mémoire sur Radio Grand Ciel. Alors comme chaque mois avec les archéologues de la ville de Chartres, nous vous faisons découvrir d'autres facettes de l'histoire locale, grâce notamment aux découvertes faites lors de fouilles ou études archéologiques menées à Chartres. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Dupont. Frédéric est archéologue spécialiste de la préhistoire au sein de la direction de l'archéologie. Et nous allons découvrir ensemble une période qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder jusqu'à ce jour dans l'émission, qui est la période néolithique. Bonjour Frédéric.
Et bonjour Julia.
Alors tout d'abord Frédéric, pour les novices, qu'est-ce que la période néolithique? Comment peut-on la définir?
Alors le néolithique, en fait, c'est la fin de la préhistoire. C'est une période qui elle-même correspond grossièrement à l'histoire humaine avant l'invention de l'écriture. Et en forçant le trait, on peut dire que le néolithique, c'est la phase entre l'âge de pierre classique et l'âge des métaux. Donc elle est marquée par de profonds changements liés à un nouveau mode de vie. Donc l'homme devient sédentaire. Et sa subsistance est désormais assurée par la production et non plus par la prédation. En fait, il passe progressivement de chasseur-cueilleur à agriculteur-éleveur.
Alors, là, cette mini-évolution, révolution même peut-être, à quelle date on peut situer cette période dans l'histoire de l'échelle humaine?
Alors, les dates varient évidemment en fonction des régions et des définitions qu'on peut en faire. Mais pour ce qui nous concerne, elle commence au Proche-Orient il y a environ 12 000 ans. Finalement, le néolithique va s'étendre du croissant fertile en deux courants vers l'ouest. L'un plus rapide et moins dense longe la Méditerranée, l'autre plus long parcourt le Danube pour rejoindre le nord de la France. Il se répand ensuite dans le bassin parisien, c'est ce qu'on appelle le courant danubien. Les deux mouvements vont fusionner, il y a 5500 ans au centre du pays.
Et donc du coup, si je comprends bien, ce sont les migrants donc du croissant fertile, de la Mésopotamie, qui ont un peu conquis la France que l'on connaît aujourd'hui.
Disons que nos ancêtres directs sont des migrants mésopotamiens arrivés chez nous il y a 7000 ans.
Alors avec Frédéric, nous allons donc remonter 7000 ans en arrière pour aller à la rencontre donc, de ces premiers agriculteurs éleveurs bosserons. Nous allons donc dans un premier temps découvrir comment nos ancêtres vivaient et étaient organisés à cette époque. Et puis dans la seconde partie de l'émission, nous partagerons les découvertes réalisées par la direction de l'archéologie, plus spécifiquement à Chartres et alentour. Alors Frédéric, on va rentrer dans le vif du sujet. Et moi je suis toujours un petit peu surprise, vous dites que vous appelez nos ancêtres du néolithique les premiers agriculteurs bosserons. Pourquoi?
Tout simplement parce que ce sont les premiers hommes vivant en Beauce à cultiver les céréales et à utiliser l'agriculture comme mode de production.
Mais pas seulement.
Non, évidemment, les éléments caractéristiques de l'homme du néolithique sont la taille de pierre, héritée du paléolithique, de la période précédente de la préhistoire, la sédentarisation, donc l'agriculture bien sûr, l'élevage et aussi tout un tas d'inventions, notamment la poterie. Et ce sont, en réalité, nous sommes face à une série d'évolutions, plus qu'à une vraie révolution au cours de la vie humaine.
Alors on va prendre le temps de voir ces différentes évolutions, ces nouvelles techniques, mais est-ce qu'elles apparaissent partout dans le monde au même moment?
Non. Alors la plus grande révolution va se faire évidemment au Proche-Orient, mais il y a vraiment plusieurs foyers de néolithisation qui existent de façon indépendante dans le monde. Évidemment, au croissant fertile, il y a une métamorphose avec une culture sur la famille des blés, donc, mais aussi évidemment l'orge, les pois, les lentilles, le lin. Et puis pour ce qui concerne les animaux, c'est le bœuf, le porc, la chèvre, l'âne et le mouton. Alors, il faut aussi noter que les autres zones de néolithisation sont le nord de la Chine, donc il y a à peu près 10 500 ans. Là, c'est plutôt le millet, le chou et le porc qui sont domestiqués. Au Mexique, il y a 10 000 ans, là c'est le maïs, d'accord, les piments, et puis dans les Andes, et là c'est surtout la pomme de terre, et puis les espèces cultivées sont le lama et le cochon d'Inde.
On a un panorama un petit peu au niveau à l'échelle mondiale de ces foyers de néolithisation, mais revenons sur chacun des points cités un peu plus tôt dans l'émission. Tout d'abord, cet héritage, donc la taille de pierre, à l'époque néolithique, il y a 7 000 ans maintenant, quels étaient encore les outils fabriqués avec la pierre?
Alors, d'abord, il faut préciser que la pierre utilisée est majoritairement locale. On utilise essentiellement le silex. Donc, ces outils servent au quotidien, donc au traitement des peaux, à la coupe des céréales, à moudre les grains, à couper les arbres, à faire du feu, à chasser. Donc, ce sont ce qu'on appelle des grattoirs, des burins, des perçoirs, des tranchettes, des armatures. Donc, ce sont tout type d'outils, souvent polyvalents, dont la taille nécessite une excellente maîtrise. Alors, évidemment, il y a d'autres outils qui sont en bois ou en os, mais dont on a évidemment moins de traces parce que ce sont des éléments organiques qui se conservent moins bien.
Et vous, effectivement, lors des fouilles, selon la qualité peut-être des sols sur lesquels vous intervenez, vous n'arrivez pas à retrouver toute trace où il y a parfois des choses qui sont très dégradées, c'est ça ?
L'acidité des sols fait que, évidemment, tout ce qui est organique a du mal à se conserver, l'os notamment. Après, certaines conditions sont plus favorables, les zones tourbeuses où on peut conserver évidemment des éléments organiques, voire du cuir, des choses plus intéressantes.
Alors vous parliez aussi de sédentarisation. Alors, c'est-à-dire que là, nos ancêtres vont totalement abandonner le nomadisme ?
Alors, disons que dans des conditions climatiques et géographiques favorables au Proche-Orient, donc les hommes cueillent toujours au même endroit, toute l'année, et n'ont plus besoin de suivre les troupeaux. Donc, ils apprennent d'abord à se fixer, puis à cultiver, et ensuite, ils appréhendent l'élevage. Tout ça paraît relativement rapide à l'échelle humaine, mais ça se fait quand même sur plusieurs générations.
Frédéric, est-ce que vous pouvez nous préciser justement ce qu'apporte ce changement climatique, ce petit réchauffement, on va dire ?
Ce n'est pas un petit réchauffement, et pour être un peu grossier, on va dire que le froid remonte vers le nord et il emporte avec lui les animaux qui sont difficiles à chasser. Donc le climat devient plus clément et plus propice à la sédentarisation. Les hommes ne sont plus obligés de se déplacer car ils trouvent suffisamment de nourriture à proximité de leur campement. D'abord des céréales sauvages, donc l'engrain, des légumineuses qui poussent à profusion. Et tout ça, ça facilite la cueillette et l'expérimentation avant une agriculture avérée il y a 12 000 ans. Ensuite, il y a de nombreux ongulés sauvages qui sont désormais plus faciles à chasser. Chèvres, les moutons, le cerf, le sanglier. Et ainsi, les premières espèces domestiquées qui furent donc la chèvre, le porc, le mouton et le bœuf. Elles l'ont toutes été à peu près en même temps, il y a 10 500 ans.
Et du coup, que mangeaient nos ancêtres du néolithique ?
Alors, des bouillies, des galettes de céréales, de la viande séchée, fumée, des fruits secs, des racines, des glanes. Et puis, tout ça, bien sûr, ne les empêche pas de continuer à chasser, à pêcher, voire à charogner pour agrémenter leur repas. Et au final, donc, cette nouvelle vie sédentaire a un impact sur la démographie. Et cette pression les pousse à migrer, notamment en Europe, jusqu'au territoire français.
Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces deux courants qui remontent par le sud et plus par le nord.
C'est ça. Et le courant qui remonte par le Danube, par le nord, va donner donc une néolithisation en France qui correspond à une installation dans des espaces quasiment vides et sur des terres fertiles et adaptées à leur mode de vie.
Et concrètement, quand on parle, donc, on a dit de sédentarisation, est-ce que nos ancêtres construisent carrément des maisons, des villages ?
Oui, en fait, on assiste à la création de villages plus ou moins grands, avec des maisons qui sont pour des familles ou pour des clans. Et, en fait, on pense aussi que pour survivre, ils évitaient l'endogamie. Ça veut dire qu'il y avait aussi des échanges entre villages et des liens pour permettre de survivre génétiquement.
Alors justement, pour avoir une petite idée de ce à quoi pouvait ressembler un village néolithique, comment étaient, est-ce qu'on a une idée de comment étaient les bâtiments ?
Oui, alors, au néolithique ancien, les bâtiments sont très standardisés. Ils sont tous orientés est-ouest en fonction de la direction du vent. Ils sont rectangulaires, assez longs, de 20 jusqu'à 50 mètres, donc sur poteaux de bois et murs en terre crue, avec des toitures de branches. On suppose donc qu'ils vivaient par famille proche et que certaines maisons étaient associées à une activité spécifique, donc la chasse, la découpe des peaux, la fabrication de la poterie. Au néolithique moyen, lorsque la société se hiérarchise, les formes des bâtiments et leurs fonctions évoluent. Donc on commence à avoir des bâtiments communautaires, des enceintes pour fermer les villages, des sépultures collectives ou individuelles. Et le village se développe donc à l'intérieur d'une enceinte où sont implantés tous les enclos, les champs et les maisons.
D'accord.
Pour finir, donc au néolithique final, nous avons affaire à de très grands bâtiments communautaires et des bâtiments funéraires en pierre tels que les dolmens. Donc il ne faut pas oublier, pour ce qui nous concerne, que la région centre est la deuxième région de France en nombre de mégalithes. Donc dolmen, menhir, derrière la Bretagne évidemment. Et donc par exemple, je vous invite à découvrir le nouveau musée de site au dolmen de Changé à Saint-Pia, qui retrace une partie de cette histoire.
Oui, effectivement, un nouveau musée qu'on peut visiter. Et Frédéric, je reprends la parole, mais est-ce qu'on peut préciser justement, parce qu'on parle là de changer de Saint-Pierre, préciser un petit peu ces pratiques funéraires, est-ce qu'ils seraient liés à des croyances particulières à cette époque?
Alors, on ne sait pas exactement quelles sont les croyances et les pratiques, mais on est certain de la naissance de, entre guillemets, des divinités, essentiellement liées aux animaux et à la terre, dans les grands villages mésopotamiens il y a 9000 ans.
Et en France?
En France, alors on découvre des sépultures individuelles en terre pour des personnages importants il y a 6500 ans. Ces bâtiments vont être aménagés en dolmen, puis en tumulus vers la fin du néolithique, mais aussi dans des sépultures collectives comme les fameux tumulus qu'on trouve beaucoup en Bretagne. Donc, les défunts peuvent être enterrés avec des objets type pointe de flèche, âge poli, coquillage, outils en silex ou céramique, ce qui prouve que l'inhumation avait un lien entre les morts et les vivants et éventuellement autre chose pour les accompagner après la mort.
D'accord. Et justement, l'étude de ces sépultures, qu'est-ce qu'elles vous apprennent en fait?
Alors, vous avez déjà fait une émission avec un anthropologue, mais je peux moi juste vous dire que l'étude des sépultures renseigne sur l'état sanitaire des populations, sur leur densité et surtout sur leur organisation sociale à travers les traitements différents qu'on pouvait apporter aux morts. Donc pour faire simple, au néolithique ancien, tout le monde est enterré de la même manière et dans la même position. Puis les sépultures varient en taille et en forme, en lien évidemment avec une différenciation sociale qui va s'accentuer au fil du temps.
Donc du coup, je rebondis sur cette idée de distinction sociale qu'on observe du coup au moment du traitement des défunts, des gestes qu'on peut leur apporter. Et est-ce que ça, on retrouve la même chose dans le monde des vivants, on va dire?
Alors, nos observations sur la taille des maisons, les sépultures est un reflet du fonctionnement social des différents groupes culturels. En comparaison avec les peuplades actuelles, il y avait certainement un chef, un membre scientifique éminent, des spécialistes artisans. Donc, et leurs pouvoirs respectifs se sont sans doute modifiés avec la hiérarchisation des sociétés, la création des valeurs et l'acquisition des biens. Le rôle des femmes variait certainement d'un groupe à l'autre.
Mais là, on n'a pas d'indice pour pouvoir parler plus précisément de cela, mais ne nous éloignons pas trop de notre sujet. En début d'émission, nous avions aussi évoqué l'apparition d'inventions techniques. Quelles sont les plus marquantes, les plus importantes?
La plus évidente, c'est la céramique. Donc elle est indispensable au stockage, à la cuisson, à la vaisselle. Donc elle est fabriquée selon la méthode du colombin, c'est-à-dire un boudin d'argile monté à la main. Donc le tour de potier n'existe pas encore. Donc chaque groupe culturel a des préférences quant au décor ou au mode de cuisson sur la céramique. Et ces différences permettent, nous en tant qu'archéologues, d'identifier les groupes culturels. Rien que pour la région centre et l'ouest en France, on identifie 5 groupes culturels différents au néolithique final, donc il y a 4000 ans, à partir des formes céramiques.
Donc en fait, les céramiques sont vraiment le reflet de chacune de ces groupes. Et est-ce qu'il y a d'autres inventions significatives qui apparaissent à cette époque?
On peut citer le métier à tisser, donc il y a 4500 ans, pour la laine et pour les plantes, donc qui facilite la production des tissus.
Et là, du coup, quelle était la mode, Frédéric? Parce qu'on a une idée de ce que pouvaient porter nos ancêtres plus de 5000 ans.
La mode, c'est difficile à dire. En tout cas, ils étaient vêtus de cuir. Ils utilisaient beaucoup les fibres végétales, donc le lin, le chanvre, voire même l'ortie. Et puis évidemment, la laine. Et puis les bijoux en pierre, en coquillage, en os. On peut imaginer que la plupart du temps, ces vêtements étaient très fonctionnels. Voilà, on voulait éviter d'avoir froid, on voulait pouvoir porter beaucoup de choses, chasser, cultiver, donc des vêtements fonctionnels qui pouvaient éventuellement être teintés. On sait qu'à la fin du néolithique, on utilisait des plantes pour teinter sûrement les vêtements.
Et peut-être être portés dans des occasions plus particulières, mais ça,
voilà, comme certaines,
pas encore de traces.
Oui, comme certaines vaisselles qui sont très particulières et qu'on suppose ne pouvaient pas servir au quotidien. Oui.
Est-ce qu'il y a une dernière invention sur laquelle vous veniez revenir ou attirer notre attention?
Oui, une qui paraît évidente et que je n'ai pas citée en premier, mais qui est le polissage de la pierre, donc qui améliore bien sûr le rendement et la finesse du travail. Donc elle apparaît dès le début du néolithique. Et puis on peut citer évidemment l'amélioration de la vannerie et puis le développement, de la batellerie simple, donc les petits bateaux. Les pirogues ou des choses comme ça.
Les petites barques, ouais, voilà. D'accord. Et je voulais poser cette question, est-ce que tout le monde pratique les mêmes activités ou on a des spécialistes, entre guillemets?
La vraie difficulté, c'est qu'on a affaire à des maîtrises techniques qui nécessitent que certaines personnes soient vraiment spécialisées. Bon, même si tout le monde, évidemment, se devait mobiliser au moment des moissons, par exemple, Il y avait sûrement des potiers, des gens qui travaillaient les peaux, ceux qui taillaient le silex, et tout ça était séparé et sûrement structuré au sein des sociétés. Donc c'est à cette époque qu'une économie avancée avec des échanges commerciaux, des trocs d'objets ou de services se développe avec la recherche de matières premières en quête de qualité, notamment pour la pierre. Donc la monnaie métallique de référence n'existe pas. Mais il est possible d'échanger en fonction des régions contre des éléments repères comme des fèves, du sel, des coquillages, des grains. Il faut aussi rappeler que ces sociétés sans écriture savent très très bien compter.
Merci Frédéric pour cette présentation générale de nos ancêtres à l'époque néolithique. Je rappelle, il y a maintenant quasiment 7000 ans. Nous allons faire une petite pause musicale avec le groupe The Doors pour écouter Roadhouse Blues. Et nous nous retrouvons juste après pour aborder ensemble des découvertes particulières réalisées à chaque fois.
Myself
bientôt dans votre émission Histoire et mémoire, consacrée à l'époque néolithique. Je suis en compagnie de Frédéric Dupont, qui est archéologue et spécialiste de la préhistoire au sein de la ville de Chartres. Donc, dans la première partie d'émission avec Frédéric, on avait évoqué un peu les grandes caractéristiques de cette période, mais maintenant, nous allons découvrir vraiment les sites locaux et les découvertes locales. Frédéric, faites-nous donc un panorama de cette époque néolithique à Chartres.
Alors pour ce panorama, je vais utiliser 6 sites différents fouillés dans les alentours, donc à Chartres, dans le quartier des Petits Clos, à Sours, à Minières, à Mainvilliers, mais également sur le plateau nord-est, avec nos interventions récentes sur l'aérodrome. Et tous ont livré des indices un peu épars de la période néolithique sur des phases culturelles et périodiques variées.
Alors commençons notre visite par exemple à Sours. Quels vestiges avez-vous découvert ?
Alors, avant de parler de tout ça, j'aimerais dire que le contexte limoneux local est primordial donc pour les premiers agriculteurs beaucerons. Donc le limon, qui n'est ni trop imperméable ni trop drainant, facilite les cultures de céréales. Et donc c'est dans ce contexte périurbain et dans les champs ou dans les zones urbanisées récemment que se trouvent pour nous les sites les plus intéressants pour la préhistoire. D'accord. Évidemment, le problème des activités agricoles destructrices se pose dans ces cas-là.
Oui, parce que vous ne pouvez pas retrouver l'intégralité des sites, malheureusement.
Voilà, les sites sont souvent altérés, en tout cas dans leur partie haute, par les activités agricoles, parce qu'en fait, l'installation des premiers néolithiques se retrouve dans les champs.
Alors, on revient à Sours, du coup.
Allons-y. Donc, à Sours, ce sont 3 grands bâtiments rectangulaires, donc des maisons familiales, dont la plus complète mesure 25 mètres sur 10, qui ont été découvertes. Elles ont 7000 ans, donc. Elles sont basées sur des alignements parallèles de trous de poteaux qui permettent de restituer leur plan. Dans ce plan, 3 pièces avaient certainement des activités différentes.
D'accord.
Associées à ces bâtiments, on a des fosses contiguës qui sont très riches en éléments matériels. Donc ce sont leurs poubelles, en fait. Hein. Pour les archéologues, c'est très pratique de retrouver ces poubelles-là parce qu'on a les éléments quotidiens de leur vie. Donc des outils en silex, des tessons de poterie, des ossements animaux, des fragments de torchis, des éléments de parure, de mouture, donc tout ce qui fait la vie quotidienne des hommes du néolithique.
Et qu'on a évoqué tout à l'heure avec tout cet artisanat et toute cette agriculture et élevage.
Et à Sours, oui, juste pour préciser qu'à Sours, à l'emplacement de ce site qui est un site assez riche, il y a un panneau qui était installé et qui présente les résultats de façon succincte et, en espérant-le, pédagogique.
Donc, avis aux auditeurs s'ils veulent se rendre sur le site de Sours et découvrir en images ces découvertes. On a parlé aussi de Mainvilliers.
Oui, alors à Mainvilliers, nous sommes en bordure de Rocade. Et, 2 sites assez proches ont été fouillés. Donc, ils datent de 6700 ans. Donc, les vestiges ne sont pas bien conservés, donc, dû aux activités agricoles, bien sûr. Donc, ils sont tous les deux du même acabit, mais les plans de bâtiments ne sont pas restituables. Voilà. On a du matériel quotidien un peu éparpillé dans les champs et des activités probablement artisanales sans qu'on ait pu savoir où se trouvait le village. C'est un peu la même chose à Minières, où les éléments néolithiques ont été découverts au milieu d'un village romain.
D'accord. Et à Chartres plus précisément, vous avez fait plusieurs observations.
Oui, à Chartres, d'autres implantations ont été identifiées. Tout d'abord au Petit Clos, l'ex-quartier Beaulieu. Donc des éléments comme des fours, des fosses de stockage avec des graines carbonisées qui étaient conservées, des zones de taille de silex qui démontrent une intense activité artisanale sur une grande surface sans que malheureusement les habitations associées et leurs traces ne soient préservées. Ces occupations auraient 6000 ans. Une partie toutefois des fondations d'un bâtiment en abside daté de 4000 ans, donc plus récent, associés à des vestiges céramiques idoines, ont aussi été mis au jour.
Et là, du coup, on était sur une zone, on n'est pas sur une zone agricole, mais pareil, en fait, il faut dire que toute activité humaine dégrade les vestiges.
Oui, alors la chance à Beaulieu, c'est que le quartier était encore une zone agricole il y a un siècle, et le site dont je vous parle, au Petit Clos, était situé sous l'ancienne école des Catalpas. Donc nous, on a retrouvé les indices d'occupation néolithique sous des couches de billes parfois, sous des éléments très récents, mais on a eu la chance que ce soit à peu près préservé malgré les constructions des bâtiments, mais qui n'ont pas vraiment impacté l'ensemble du site.
D'accord. Et vous avez parlé là, de type de poterie. Quel type de poterie vous avez retrouvé sur ce site ?
Alors, pour le bâtiment en abside qui est daté du néolithique final, on a des poteries très caractéristiques qui sont des grands vases tronconiques à fond plat et à parois épaisses qui devaient servir au stockage.
Et quels sont les autres objets découverts, par exemple?
Alors, toujours pour la même période, on a des pointes de flèches, donc qui sont soit des armatures emmanchées latéralement sur un bout de bois, soit des pointes à aileron qui correspondent à l'image classique que l'on peut avoir de la pointe de flèche préhistorique.
Et sur les autres sites chartrains, on évoquait tout à l'heure le plateau nord-est, donc qui est à l'entrée de la ville, là où il y a l'actuel aérodrome.
Oui, alors sur le plateau nord-est, ce sont les vestiges d'une habitation vieille de 6500 ans et les résidus domestiques associés qui ont été découverts. Encore une fois, ce sont des tessons de poterie, bien sûr, car le verre n'existe pas, dont des fragments de plats à pain et puis des outils en silex, bien évidemment. On a aussi retrouvé plusieurs fours enterrés, dont 4 au moins, dont on ne connaît pas la fonction véritable. Ça pouvait servir à la cuisson des poteries, au fumage, à la cuisson des viandes, à la torréfaction des céréales, à la cuisson des galettes. Donc beaucoup, une zone vraiment domestique dont on a du mal à définir pour le moment l'étendue, puisque les premières interventions sur le plateau nord-est ont été faites sur des bandes assez peu larges.
D'accord. Et on a parlé de céréales. Est-ce qu'il y a eu des études particulières qui permettent de savoir de quelles céréales il s'agit ou c'est en cours ?
Essentiellement du blé.
Essentiellement du blé déjà. Parmi tous les objets découverts, est-ce qu'il y en a un, voilà, parmi l'ensemble, qui retient plus particulièrement votre attention, Frédéric ?
Alors, j'aime beaucoup une découverte qui a été faite à Sours. Il s'agit d'un bracelet en céramique. Il faut savoir qu'à cette époque, les objets de parure, comme les bracelets, sont plutôt en pierre, notamment en schiste, une pierre qui ressemble à l'ardoise, on va dire. Donc à ce titre, ils sont assez représentatifs des échanges commerciaux, car le schiste n'est pas présent partout. Mmh. Mais pour contrer ce manque de matières premières, tout en gardant l'aspect symbolique de l'objet, certains groupes fabriquaient des bracelets en terre cuite.
C'est le cas. C'est comme un ersatz, alors.
C'est un ersatz où ça permettait aussi d'avoir, de s'approprier l'aspect symbolique de l'objet sans pouvoir accéder à la matière première. Donc c'est le cas où un exemplaire quasiment complet a été retrouvé alors que des bracelets en terre cuite sont totalement absents du site.
Et il a été retrouvé dans un contexte particulier, ce bracelet ?
Dans une fosse dépotoir. Il était cassé,
merci,
malheureusement.
Frédéric, avant de nous quitter, une toute dernière question. Je suis peut-être pas la seule à me la poser, mais quand on remonte si loin dans le temps, comment obtenez-vous des datations pour ces différentes périodes ?
Alors, la technique la plus simple, c'est d'utiliser la datation relative grâce à la comparaison entre sites et à la superposition chronologique des couches archéologiques. Mm-hmm. Ce qui est en dessous, évidemment, sera plus vieux que ce qui est au-dessus. Mais nous utilisons aussi les datations absolues, dont la technique la plus connue est celle du carbone 14.
Bon, alors pour la non-science scientifique que je suis, comment fonctionne la technique du carbone 14 ?
On va essayer de faire simple. Que ce soit dans leur squelette ou dans leurs branches, tous les individus vivants sont composés en partie de carbone. Donc tant que les individus vivent, cette partie contient un pourcentage immuable et connu d'atomes qui se désintègrent parce qu'ils sont radioactifs.
D'accord.
À partir de la mort de l'individu, que ce soit l'arbre ou l'animal, les échanges avec l'atmosphère cessent. Donc le pourcentage d'atomes radioactifs contenus diminue alors de façon régulière et à une vitesse connue. Donc il nous suffit, nous, de mesurer la dose restante de carbone radioactif pour savoir depuis combien de temps l'individu est mort. Cette méthode fonctionne plutôt bien jusqu'à 40 000 ans en arrière. Après, il reste trop peu de carbone radioactif pour que ce soit efficace.
D'accord. Bah, merci pour cet éclairage. Et c'est ainsi qu'on va achever cette émission donc, qui était consacrée à l'époque néolithique. Et je remercie sincèrement Frédéric Dupont, qui est donc archéologue spécialiste de la préhistoire au sein de la direction de l'archéologie, de nous avoir apporté tous ces éléments. Vous pouvez d'ailleurs réécouter ou télécharger l'émission sur le site internet de Radio Grand Ciel. Pour information, un article plus détaillé dans le numéro de décembre du magazine municipal Votre Ville résume aussi cette émission. Et nous nous retrouvons donc en janvier prochain avec Vincent Acheret, qui est responsable de la fouille qui vient de se dérouler donc en fin d'année dans le quartier de Rochefs, pour évoquer avec lui donc les découvertes faites sur ce site. Et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt sur Radio Grand Ciel. Thank you.